Mesdames et messieurs, le microphone parcourt actuellement les chantiers en quête d'images sonores.
Encore des trous, toujours des trous, les mêmes trous.
Un vieux keramique qui serait rongé.
Rien que des trous.
Où ce que tu es, ma belle cité, qu'une bande de slures a dévasté.
Des trous profonds, des trous sans fond, des trous partout.
Un vieux gruyère, moi je te dis.
Plein de trous.
On t'exproprie, on t'en les dit, moi je te dis.
C'est Bruxelles, capitale de l'Europe.
Bonsoir à tous. La Grenouille vous offre un week-end un peu spécial entre Marseille et Bruxelles avec le collectif Ici Même qui propose un cinéma radio-guidé à Belzins et dans le quartier bruxellois des Marolles et avec l'Embobineuse qui projette dans le cadre de son festival belge deux films qui décortiquent ce que les sociologues appellent gentrification et ce que les tenants du processus préfèrent nommer réhabilitation, rénovation ou revitalisation de quartiers populaires. Comme la Grenouille s'intéresse particulièrement à ces questions de transformation urbaine, c'est l'occasion de consacrer une émission spéciale à ce sujet brûlant d'actualité à Marseille, à Bruxelles et finalement dans toutes les métropoles occidentales. Alors, la gentrification, qu'est-ce que c'est ? Ce mot vient de l'anglais « gentry » qui désigne l'aristocratie et donc on pourrait traduire « gentrification » par « embourgeoisement ». En fait, la gentrification, c'est le processus de transformation de quartiers populaires en quartiers chics ou, en d'autres termes, en petit Manhattan, bien propre et bien luxueux. Il faut noter qu'en anglais, ce n'est pas du tout péjoratif, mais en français, on préfère employer un lexique qui cache la finalité de ce processus, qui est de remplacer donc les classes populaires par des classes supérieures. Pendant cette émission, nous allons tâcher de décrire les dessous de la gentrification. Et puis, comme nous sommes en compagnie d'artistes, nous essaierons de sortir de la langue de bois pour nous interroger sur le rôle de la culture dans ce processus. Les artistes installés dans des quartiers populaires comme la Belle de Mai ou Belzins ne sont-ils pas, malgré eux, gentrificateurs ? Alors, pour parler de tout ça, nous avons le plaisir d'accueillir Gwenaël Bress, un des programmateurs du cinéma Nova à Bruxelles, réalisateur d'un film autour du quartier de la Gare du Midi, film qui s'intitule « Dans 10 jours ou dans 10 ans ». Avec nous aussi Paul Erika, marseillais d'origine, qui vit à Bruxelles, est aussi réalisateur a réalisé un documentaire intitulé « Les Indésirables de la rue de la République », film qui a donc bien sûr été tourné à Marseille. Sur ce plateau aussi Corinne Pontier du collectif d'artistes Ici Même et Vincent Bonnet de la compagnie, cette galerie d'art implantée à Belzins qui propose des ateliers artistiques et qui est partenaire de longue date d'Ici Même. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Derain qui travaillait auparavant à la compagnie et participe actuellement à une recherche-action pour la participation des habitants dans le projet de réhabilitation de la rue de la République. Alors bonsoir à tous. Je vous propose de commencer par Bruxelles, qui, Gwenaël, semble pionnière en matière de gentrification. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans la capitale de l'Europe ?
Je ne sais pas si Bruxelles est pionnière. Hein. La situation à Bruxelles, c'est que... Bon, c'est la capitale de la Belgique, mais la Belgique est un pays un peu particulier au niveau institutionnel. Et que dans cette complexité qu'on n'aura pas le temps d'expliquer ici aujourd'hui, Bruxelles a vu et voit de plus en plus fort son salut par l'international, l'internationalisation, dont le principal vecteur est bien entendu l'arrivée des institutions européennes. Donc ça, c'est un processus qui a commencé dans les années 50, puisque les premières institutions européennes se sont établies à Bruxelles en 58 et que depuis lors, le fait d'attirer de plus en plus d'institutions, d'être, de rester la capitale d'un maximum d'institutions européennes à tout prix et d'attirer un maximum d'entreprises étrangères, c'est un petit peu le seul fil conducteur de la politique bruxelloise. Quand même, une chose qu'il faut dire, c'est que en tant qu'entité politique, la région de Bruxelles, capitale comme elle s'appelle, n'existe que depuis 1989, donc c'est assez, assez récent, et qu'avant 1989, il s'agissait de l'agglomération bruxelloise, et c'est donc l'État fédéral qui gérait tout ce qui était urbanisme à Bruxelles. Donc il y a eu notamment dans les années 60-70 des phénomènes de destruction de la ville et de départ des habitants qui étaient assez importants, notamment avec le quartier de la gare du Nord, où des milliers de gens ont été mis dehors et des centaines d'habitations détruites pour construire le projet Manhattan à l'époque, qui était l'idée de faire un World Trade Center, en fait, qui n'a jamais vraiment vu le jour. Et cette institution bruxelloise, qui est la région de Bruxelles-Capitale, qui est arrivée en 89, est un peu arrivée comme la solution à ce problème. Finalement, ça allait être l'institution qui allait protéger les habitants, qui allait faire revenir des habitants en ville. Et bien, on se rend compte qu'évidemment, c'est pas le cas.
Et alors, comment on appelait ce processus de gentrification à Bruxelles au moment de la destruction de ce quartier de la gare du Nord, c'est ça, tu as dit ?
C'est ça. On parlait pas du tout de gentrification, bien sûr. C'était un phénomène. Là, c'était pas remplacer des habitants pauvres par des habitants par des classes moyennes. C'était vraiment remplacer l'habitat par du bureau et du commerce, tout simplement. Maintenant, on parle de gentrification, mais c'est encore un sujet un peu tabou au niveau politique, notamment. Pas mal d'hommes politiques ne reconnaissent pas qu'il existe des phénomènes de gentrification en Bruxelles.
Alors justement, on va tout de suite écouter un extrait de ton film où on entend Charles Piquet. Tu peux nous expliquer qui c'est ? Et justement, Charles Piquet, on va l'entendre, hein, n'emploie jamais le mot de gentrification. Alors c'est qui Charles Piquet ?
Charles Piquet, c'est un socialiste qui est devenu le maire, on dit bourgmestre chez nous, mais le maire de Saint-Gilles, qui est une des 19 communes de Bruxelles, la commune sur laquelle se trouve la gare du Midi, donc qui est la gare internationale, la plus grande gare de Bruxelles. Et il est devenu en 89 le premier ministre-président de la région bruxelloise. Il a été encore pour un second mandat. Il a passé une législature et il l'est à nouveau maintenant. Donc c'est quelqu'un qui cumule ces deux fonctions et qui a utilisé ce cumul pour essayer de mener à bien le projet de réhabilitation des alentours de la gare du Midi.
Et qui a commencé quand, juste pour qu'on comprenne bien l'extrait ?
En 89, juste au moment de la création de la région bruxelloise. Et surtout, ce qui est important, c'est le moment où on annonce que le TGV va s'installer à la gare du Midi et c'est le point de départ de tout ce fatras.
Au début des années 90, ce quartier était dans un état de misère catastrophique. C'est par ce quartier-là qu'il y a eu à un moment donné un effet de contagion et de dégradation des autres quartiers.
Nous avons privilégié la réhabilitation plutôt de la morphologie urbaine, de manière à lutter contre ce qui avait été les processus de destruction de la forme de la ville. Et puis très vite est apparu qu'il fallait évidemment jouer sur beaucoup de facteurs et beaucoup d'aspects de la vie urbaine pour aboutir à cet objectif de revitalisation de la ville dans son ensemble.
Effectivement, aujourd'hui, Saint-Gilles a été revitalisé, comme on dit. Saint-Gilles connaît un essor nouveau. Maintenant, le tout est de veiller à ce que Saint-Gilles ne vienne pas à une commune de bobos, quoi. Il faut qu'on puisse continuer. Alors tout ça, c'est le débat sur la mixité des quartiers. Et donc, il faut veiller, quand on fait des projets de développement urbain, à préserver cette mixité des quartiers. Il ne faut pas admettre qu'un quartier soit occupé que par du logement de standing, du loft de luxe, etc. Il faut prévoir quasiment îlot par îlot dans la ville, il faut prévoir du logement social, du logement moyen et du logement haut de gamme, parce que chacun doit pouvoir y trouver sa place.
Olivier Pierre, Julien Raoui.
Arnaud Claze, Stéphanie Meyer.
Avenue Foncenis, le long de la gare du Midi, un quartier en pleine reconversion depuis une dizaine d'années. Ici, immeubles de bureaux flambant neufs côtoient anciennes maisons unifamiliales en piteux état.
Le quartier Midi est comme ses pommes, il est en train de pourrir.
Le projet de la région prévoit le réaménagement de 4 îlots en immeubles de commerce, bureaux et logements.
Devant la lenteur des pouvoirs publics à mettre en place leurs projets immobiliers, les questions fusent.
Si l'on compare effectivement les surfaces qui sont affectées à du logement et les surfaces affectées à du bureau, on peine à imaginer une réelle mixité dans ce quartier, sans compter que le commerce en disparaît de plus en plus.
Dites-vous bien, parce que le quartier, c'est un ensemble. Il y a aussi une dimension internationale, c'est la principale guerre du royaume qui se trouve là, et il y a une dimension humaine qu'il faut préserver dans ce quartier. Il faut concilier tout cela. Ça fait partie de la mixité, les choses bougent, les choses avancent, tout ça est en train de bouger, et donc on aura cette mixité, il faut l'accompagner. Et donc les choses sont bien engagées.
Monsieur Hendrick, quelque chose à ajouter ?
Je pense que la mixité que l'on nous propose est une mixité entre 8h du matin et 6h du soir.
Mais pas du tout.
Et qu'à 6h du soir,
c'est les hôtels restent ouverts après 20h.
Quartier Midi, au secours, aidez-nous. Saint-Gillois, du haut, aidez les Saint-Gillois du bas. Les habitants souffrent. Nous souffrons. Quartier Midi, 15 ans de politique régionale dans le bas de Saint-Gilles. Ça fait 15 ans ce projet, oui. Ça fait 10 ans de plan d'expropriation. Il arrive à échéance cette année. Il va falloir le renouveler pour 10 ans. C'est un échec économique dont le principal organisateur ne veut pas reconnaître qu'il n'a pas fonctionné. Personne ne lui en voudrait. Mais son honneur politique est en jeu. Je préfère aller jusqu'au bout et faire la politique du pire.
Alors, on a bien entendu dans ce petit montage d'extrait de ton film, Gwenaëlle, qu'on retrouve avec Charles Piquet cette justification par les politiques à l'initiative de ce processus de réhabilitation ou gentrification. Donc ces politiques qui justifient le processus par un discours misérabiliste sur la situation de décrépitude de ces quartiers. En même temps, on parle de mixité sociale. Alors, quelle mixité qui dure jusqu'à... Enfin, mixité déjà, quelle mixité sociale en soi? Et puis, est-ce qu'on va pas vers des quartiers de no man's land, des quartiers morts, de bureaux, comme tu disais, ce qui se passe au quartier de la Gare du Nord à Bruxelles, et no man's land, des quartiers morts la nuit? Donc, des choses qu'on retrouve ailleurs. Alors, est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus? Ce sens? Ou Gwenaëlle, tu veux nous expliquer? Je sais pas. Martine.
Non, enfin, réagir, je ne sais pas, mais quand on entend ces discours institutionnels, en fait, celui qui est prononcé là, en Belgique, ressemble, mais très, très fortement à ce que nous, on peut entendre ici. Je veux dire, je crois que l'histoire du logement, un tiers de social, un tiers d'intermédiaire, un tiers de loyer libre au prix du marché, nous, on a exactement le même ici, que ça soit à Belzin, ça... je crois que là, on est dans une histoire, effectivement, de ville occidentale. Bon, les centres-villes qui se sont paupérisés, en fait, sont pas devenus comme ça par hasard. Hein. C'est le départ des industries du secteur secondaire. Et puis, la solution actuelle aujourd'hui, c'est celle de... Il y a de la place, on va faire venir des entreprises du tertiaire parce que ça est la nouvelle ressource économique mondiale mondialisée. Donc le tertiaire, c'est effectivement un autre système. Voilà, donc ça, c'est des choses que l'on partage, je crois, à peu près tous à Marseille comme à Bruxelles. Donc j'imagine qu'après, il y a aussi des choses qu'on doit partager, qui sont tout ce qu'il y a derrière, rénovation, réhabilitation, etc. Enfin, qui recouvrent aussi des méthodes, des pratiques assez différentes, des intentions différentes. Puis après, je pense que les résultats, là, c'est en marchant qu'on les voit aussi. Donc ça donne envie d'aller marcher, en tout cas à Bruxelles, de voir ça.
Je pense que ce qui est un petit peu particulier au quartier de la Gare du Midi, c'est qu'ils ont fait, contrairement à d'autres processus de réhabilitation, c'est un processus très dur, c'est-à-dire que c'est des plans d'expropriation qui traînent là depuis 20 ans. Les gens ne peuvent... Il y a interdiction de rénover sa maison. Et le pouvoir public a créé une société anonyme qui est censée gérer le développement de ce quartier, en fait, pour encaisser les plus-values. C'est-à-dire qu'évidemment, d'un côté, on va vendre ces terrains beaucoup plus chers à des gens qui vont construire du bureau, et on va empêcher et organiser la dégradation du quartier au motif qu'il était dégradé au départ, ce qui est évidemment faux, puisque de l'autre côté de la rue, ou trois pâtés de blocs plus loin, on est dans des constructions qui datent de la même période et qui, elles, sont autorisées à être rénovées. Et dans des extraits qu'on a entendus, c'est l'idée de contagion. Et je crois qu'évidemment, pour eux, tout part de là. Ce sont des quartiers relativement pauvres, avec beaucoup d'immigrés. Alors, bon, c'est une vraie mixité pour moi, des Espagnols, des Portugais, des Marocains, des Belges, des Polonais, c'est une vraie mixité, mais pour eux, évidemment, c'est pas le même sens de mixité. Et l'idée de contagion, c'est que ce sont des quartiers pauvres qui vont donc essaimer dans le reste de la commune et qu'il faut donc déraciner ces gens voilà, de manière brutale. Sauf que les pouvoirs publics n'ont en réalité jamais eu les moyens de leurs ambitions, et que donc on se trouve encore 20 ans plus tard avec des maisons habitées qui se trouvent entre un terrain vague, trois maisons vides, etc. Donc c'est une vision assez désolante.
Martine, tu voulais réagir ?
Oui, je voulais juste aussi dire, enfin, quelque chose qu'on partage aussi visiblement, c'est ce discours sur le déclin. Voilà, votre quartier là-bas, Gare du Midi, est en déclin, et nous ici, la rue de la République était en déclin, Belzunce aussi, enfin tout Marseille d'ailleurs, mais bon, c'est aussi quelque chose qui est étonnant, parce que c'est des quartiers plutôt vivants, tout ça. Donc le déclin, je ne sais pas trop où il est, en tout cas il est dans le discours, il est très très utile. Ce déclin permet de légitimer aussi ce type d'opération violente, et effectivement nous aussi on est dans des affaires plutôt violentes, hein. Des outils qui sont a priori utiles et intéressants, mais qui sont utilisés de manière violente au service d'une idéologie. Je pense que là on y est en plein, quoi.
Paul ?
Oui, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de stratégie du pourrissement, comme ça, qui est assez commune aussi entre la rue de la République et le quartier Midi, quoi. C'est qu'il faut fragiliser ces quartiers, qui sont déjà fragiles, parce que effectivement, quand il y a mixité, c'est facile de monter les gens aussi les uns contre les autres et de masquer les différences de revenus, de niveau social, derrière des différences de type racial, etc. Et puis, cette stratégie du pourrissement qui a consisté pour la rue de la République à n'entreprendre aucune rénovation pendant une bonne dizaine d'années. Et que le quartier s'est vidé de lui-même et est devenu assez fragile. On a attendu que le fruit pourrisse et tombe, quoi, pour pouvoir le ramasser à moindre frais, quoi.
Alors là, Gwen, tu parlais d'opérations violentes, enfin soudaines, brutales, pour ce qui concerne le quartier du Midi. Il y a un autre quartier qui est touché par la gentrification à Bruxelles, c'est celui des Marolles. Et là, tu nous as ramené un petit morceau de musique qui s'intitule « Marolles, Marolles ». Tu peux nous le présenter ? C'est quelque chose d'assez rare, visiblement.
Oui, bah, c'est une parodie de Parole Parole qui est chantée par ces deux artistes belges très populaires qui sont Marion et Stéphane Steeman, donc il y a un humoriste qui n'est pas le type d'humour que je partage en général, mais cette chanson-là est assez comique. Elle date en fait de la période où il y a eu des grandes mobilisations dans les Marolles. Les habitants dormaient dehors, etc., puisqu'il y avait des projets en fait d'extension du palais de justice. C'est un quartier qui se trouve juste en dessous du palais de justice. Le palais de justice de Bruxelles, c'est aussi quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment un projet gigantesque qui a rasé toute une partie des Marolles.
Parce que les Marolles, juste, alors c'est un quartier populaire, vraiment assez proche du centre-ville, mais là c'est un grignotage, c'est pas une opération brutale, cette gentrification.
C'est ça, oui. Donc c'est juste entre la gare du Midi et le centre-ville. C'est un quartier, bah, au départ, plutôt de Belges de souche, où on parle encore le patois marolien un petit peu aujourd'hui. Et puis c'est un quartier où il y a eu beaucoup d'immigration espagnole. Et qui se trouve juste en dessous du Sablon. Et le Sablon, c'est plutôt un quartier d'antiquaires riches, de chocolatiers, restaurants riches, marchands d'art, etc. Et au niveau de la physionomie urbaine, les Sablons et les Marolles, ça se ressemble assez fort, c'est très proche. Et donc le grignotage se passe plus par l'effet du privé, simplement. On n'est pas du tout dans des processus d'expropriation, mais dans des processus de rénovation qui font qu'on chasse petit à petit les habitants, et surtout qu'on utilise fort
la main invisible du marché.
Les types de commerce, évidemment, changent fort, et donc de tous les petits commerces qui existaient avant dans ce quartier sont en général remplacés par des antiquaires de luxe. Et donc le quartier qui est très... c'est le quartier où se passe aussi le marché opus quotidien. Donc c'est un quartier où toutes sortes de populations vont et où tout le monde a un peu envie d'habiter. Donc c'est très facile de faire venir des classes moyennes dans ce genre de quartier.
Et là on parle donc de sablonisation, c'est ça ?
Voilà, c'est la même chose. C'est juste parce que le Sablon arrive, mais on pourrait dire gentrification.
Oui, parce que le Sablon, c'est le quartier de ces antiquaires plus haut dans la rue.
Qui est juste au-dessus, oui.
Et donc qui grignote. On écoute tout de suite.
Oi, 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 Bruxelles, t'as un drôle de touche. À quoi est-ce que tu ressembles avec toutes tes blouses, Charlie ?
Encore des trous, toujours des trous, les mêmes.
un vieux keramique qui serait rongé.
Rien que des trous.
Où est-ce que tu es, ma belle cité, qu'une bande de slures dévastées.
Des trous profonds, des trous sans fond, des trous partout.
Un vieux gruyère, moi je te dis.
Plein de trous.
On t'exproprie, on t'en les dit, moi je te dis.
Pour une ceinture, une bretelle, les viaducs s'enchevêtrent. Devant vos fenêtres.
Oui, du deuxième étage, en salon, tu vois la télé, hein. Tandis que les autos, hein. Eh ben, elles passent dans ton dos.
C'est Bruxelles, capitale de l'Europe.
Oui, ben moi je te dis, hein, passe.
Et ce quartier qui dort à l'ombre du palais de justice, et que certains voudraient qu'on démolisse. Mais pourquoi mettre son âme en dentelle? Pourquoi tous ces coups dans le cœur de Bruxelles?
On veut te garder là.
Marole, marole, marole.
Faut résister.
Marole, marole, marole.
Et vive ton cri.
Marole, marole, marole.
Tiens bon, tu.
Marole, 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 marole. Tu es éternel.
Oh, 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 ma ville, on va te creuser. Jusque quand tu vas t'effondrer.
Et puis des tours, à tour de main, à tour de bras.
On appelle ça le top building.
On ne voit que ça.
Paraît que ça sert au marketing.
Puis l'eau sacrée et la grande place. Faudra payer pour s'y promener. Vraiment, quelle audace.
Pourtant, c'est juste ce qui nous attend. Car ce sera si laid, tout ce qui sera le restant.
Est-ce Bruxelles, New York ou bien Tokyo?
Ça on sait pas très bien encore, on va le tirer au sort.
Ces petits pavés qu'on foule, cornets de frites et les marchands de moules. Les vestiges d'un folklore qui s'écroule. Il ne faut pas que tout ça disparaisse. Sous le prétexte qu'il faut que tout progresse.
Hier au marteau un peu piqueur, hein.
Marole, marole, marole.
Hier au promoteur.
Mariole, mariole, mariole.
Mais dans tout cœur.
Parole, parole, parole.
On est avec.
Marole, 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 marole. Faut sauver Bruxelles.
T'es prêt à ton quartier, hein.
Marole, marole, marole.
Avec tes caricoles. Ouais, et tous tes espagnols. Et le dimanche, tout est branlé et tout. Tu l'as déjà dit. Mais que viennent tout le monde ici avec le bazar pour démolir ici. Attends un petit peu. Moi, je vais rue de la loi démolir aussi le bazar. Attention, hein. Je vais aussi le faire des trous quelque part. Attention, hein. Mais pas dans leur façade, c'est dans leur budget.
Merci beaucoup Gwen pour cette perle rare tout droit venue de Bruxelles. Alors Corinne, toi tu fais partie du collectif Ici Même qui vient de Grenoble et a vadrouillé dans différentes villes. Alors est-ce que tu peux nous parler de tes expériences, enfin des expériences du collectif par rapport à la gentrification?
Affreux gentrificateur que nous sommes. non, bah, très vite... C'est vrai que c'était assez touchant de passer d'un séjour. Donc on est resté 3 semaines à Bruxelles, donc je ne vais pas parler de façon experte de la situation du quartier des Marolles, parce qu'on était malgré tout seulement des étrangers et peu de temps là. C'est un peu notre façon d'intervenir en ce moment. Et je dirai pourquoi après, parce que ça a un sens avec toute cette histoire-là. Disons qu'on a un peu choisi dans notre collectif d'intervenir de façon rapide en ce moment parce que dans notre propre territoire à Grenoble, on a été confronté à un processus de gentrification qu'on pourrait appeler. Évidemment, ce mot-là, nous, on en a entendu parler au cours de nos voyages à peu près il y a 3 ans, notamment à Budapest, une ville aussi où il y a cette problème. Enfin, puisque je crois qu'à Grenoble, comme c'est une petite ville, et les échelles comptent dans ces processus et que ce qui se passe à Grenoble, c'est difficile d'appeler ça exactement. Enfin, la définition du mot serait à revoir. Là, il y a une histoire de langage, je sens bien. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'était touchant de passer de Bruxelles à Marseille. Et nous, on a une façon d'intervenir dans les creux. On se balade beaucoup. On rencontre des personnes qui sont pas forcément des personnes repérées ou organisées en association ou en tout cas actives dans un réseau, qui sont vraiment les gens les gens de tous les jours. On se met à des endroits de la ville où on peut rencontrer ces personnes-là, et c'était drôle d'être à un mois près dans les deux villes et d'entendre exactement la même chose avec les mêmes mots.
Donc à Marseille, donc pas
avec
Belzins,
ces mots-là. Alors non, justement, c'est drôle parce qu'à Belzins, à Marseille, en fait, je trouve qu'on peut pas parler de l'histoire de Belzins de notre point de vue, donc d'étranger, de la même façon que l'histoire de la rue de la République, dont on a beaucoup plus entendu parler en arrivant, même à Belzins, que de Belzins. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a là encore une autre histoire à Belzins, où les Marseillais, il faudrait que vous nous expliquiez. Je trouve
oui,
que
on
c'est
va
pas.
Revenir après.
Il y a là encore des différences. Enfin, il faudrait éviter peut-être les discours trop généralistes, quoi. Voilà. Bon, voilà. Nous, ce mot, on en a entendu parler pour la première fois, donc il y a 3-4 ans, pas tellement chez nous, en fait, en France, quoi. Et puis plus récemment, maintenant, en France, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on entendait dire, évidemment, c'était donc des personnes qui avaient peur, en fait, une espèce de langage, un peu de la peur de l'avenir et de se demander vraiment s'ils allaient pouvoir rester là ou pas, d'être dans une espèce d'interrogation. Est-ce qu'il faut être discret, se montrer avec cette peur, ou au contraire se taire et se faire tout petit dans un coin? Enfin, il y avait des réactions comme ça qui nous ont touchés. Voilà. Et c'est vrai que au Marolles, nous on a beaucoup travaillé entre les Brigitines et puis le marché Opus et les rues qui remontent vers le palais de justice. Bon, je ne vais pas trop dévoiler. Enfin, il y a un parcours qui sera proposé donc demain et dimanche. Qui a essayé, justement, on a un peu essayé de montrer ces contrastes-là qu'on a vus, parce qu'on a tout de suite découvert que c'était un quartier au Marolles qui avait, par exemple, plusieurs vies, plusieurs rythmes, plusieurs populations, et que c'est vraiment ça qui nous a frappé quand on est arrivé, c'est que selon qu'on y était à 8h du matin, à midi, à 11h à 10h du soir, on rencontrait pas du tout. C'était comme plusieurs villes en un seul quartier, quoi. Voilà. Ça, c'était. Donc, on a un petit peu travaillé sur ces contrastes-là. Ce qui n'est pas du tout le cas, je trouve, à Belzins, par exemple, où on a l'impression d'être dans un quartier qui a vraiment une unité, une sorte de cohérence. Enfin, moi, j'ai ressenti ça beaucoup plus. Voilà. Bon. Voilà. Mais je disais, juste pour revenir à notre position, nous, un peu d'artistes qui traversons assez rapidement en ce moment des territoires, on s'est trouvé embarqué à Grenoble dans des processus de concertation,
Mais ça, on y reviendra peut-être après.
Bon, voilà.
Ouais. Là, voilà. Puisque tu demandais, Martine, là, c'est peut-être l'occasion pour toi de nous présenter un peu ce qui se passe à Marseille. Où, depuis le milieu du 19e siècle, de multiples tentatives de gentrification de la rue de la République ont eu lieu. Le milieu du 19e siècle, c'est le moment où la rue de la République a été percée. Donc c'était une tentative de 1860, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas du tout historienne. Donc,
non, mais tu
je
connais
suis quand même
bien.
Mal placée pour en faire l'histoire. En tout cas, oui, effectivement, elle n'existait pas, cette rue. Hein, elle a été percée pour relier le nouveau port à l'ancien et pour percer aussi les vieux quartiers, ces vieux quartiers qui seront démolis, et Paul en parlera après, un peu plus tard. Quoi, donc, c'est une espèce d'opération très violente, là, de travail sur la ville, où on perce presque 2 kilomètres à l'intérieur des collines de la ville. Et d'ailleurs, quand on marche sur la rue, qui est quand même un assemblage de fragments, quand on marche, on voit la percée, parce qu'on voit les murs, d'un côté les carmes, et puis de l'autre la petite montagne du panier. Donc ce sont des choses encore qu'on perçoit dans la ville. Donc effectivement, c'est à l'époque, Second Empire, tout ça. Il y a l'idéal saint-simonien aussi, hein, où on change de rapport économique, où on est dans l'espèce d'idéologie des flux, il faut que ça soit fluide, il faut que ça circule. Donc on perce, on fait des... Voilà, donc il y a eu effectivement un gros truc de spéculation qui ruinera effectivement les promoteurs immobiliers de l'époque. Ils finiront sur la paille. Donc c'est ce qu'on dans les titres de journaux, on voit souvent la rue maudite, la malédiction de la rue, ça marchera pas, ça marchera jamais, etc. Bon, ça, oui, on ne sait pas. Hein.
Non, mais c'est pas. Ce qui est assez étonnant. Enfin, c'est là aussi peut-être. Enfin, on peut faire un parallèle. Certainement un peu rapide, mais quand même, dans ton film, Gwenaëlle, on voit bien que le quartier du Midi, c'est brutal, c'est violent, mais c'est interminable. Et la rue de la République, c'est un peu ça aussi. Et de l'aveu même des gentrificateurs actuels, ce fut jusque-là, au moins, un échec. On écoute un petit bout d'une interview de ces gentrificateurs, donc Eric Foyard, directeur de Marseille République, cette filiale de l'investisseur américain Lone Star, qui détient une bonne partie de la rue de la République.
Cette avenue a connu un certain nombre de vicissitudes et les ambitions initiales ont bloqué sur différentes choses. Ça a été boudé par les Marseillais, ils n'ont pas voulu venir. Clairement, ils n'ont pas voulu venir. C'était destiné à être soit de l'accession à la propriété, pour parler un langage moderne, soit être ce qu'on appelait les immeubles de rapport, des immeubles locatifs, à vocation plutôt bourgeoise. Les Marseillais qui en avaient les moyens, soit de payer des loyers élevés, soit d'acheter des logements, on préférait rester de l'autre côté, c'est-à-dire sur la partie sud de Marseille. Ça s'est passé comme ça. Et donc, quand la rue Impériale a repris, la société de la rue Impériale a repris ce patrimoine, ils ont fait du logement locatif en se disant on va y loger les navigateurs. Les navigateurs, c'est un terme générique qui à l'époque regroupait les équipages des navires et les dockers. Ils ont loué ça à des tarifs extrêmement bas, mais néanmoins, c'était encore assez cher pour les gens à qui c'était destiné, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous. Et donc, cette rue, elle est restée toujours partiellement vide. Et d'une part, et d'autre part, elle a été le terrain d'atterrissage des différentes couches d'immigration qui se sont installées à Marseille à partir du début du XXe siècle. Et chaque fois que des immigrants arrivaient à Marseille et se refaisaient une santé économique, au bout de quelques temps, ils déménageaient, ils allaient ailleurs. Donc ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Dans le même temps, le quartier historique qui jointait la rue de la République, c'est-à-dire le quartier du Panier, est un quartier aussi qui a toujours été un quartier populaire, mais qui se paupérisait un peu aussi. Voilà l'histoire. Alors, par rapport à l'haussmannien de luxe parisien, il y a un certain nombre de fonctions internes de l'architecture d'intérieur qu'on ne retrouve pas rue de la République, c'est-à-dire il n'y a qu'une grande porte cochère par îlot, alors que l'haussmannien parisien, par exemple, vous en avez une par immeuble. Cette porte cochère, comme son nom l'indique, elle menait au bout à des grandes cours où vous aviez des remises à calèches. Malheureux, ils n'avaient pas de calèche. Le dernier étage des immeubles à Paris, vous aviez des chambres de bonne. Ici, ils n'avaient pas de domestique. Hein. Ils faisaient le ménage et la vaisselle eux-mêmes. Hein. Ça, c'est clair. Donc voilà.
C'était un petit bout d'une interview d'Éric Foyard, donc le directeur de Marseille République. Interview réalisée par Caroline Galmot, que vous pouvez retrouver sur le site web de Radio Grenouille dans une série d'émissions intitulée Bienvenue aux riches. Alors, Martine, qu'est-ce que tu en penses ?
Bon, bah, Monsieur Foyard, il fait l'histoire, il raconte l'histoire comme ça l'arrange aussi. Hein. Il dit à un moment, je reprendrai le terme les gentrificateurs, faudra qu'on y revienne ça, à ce terme-là. Il dit les Marseillais n'ont pas voulu venir. Alors, quels Marseillais, quoi. Ce qui était attendu, c'était la bourgeoisie industrielle. Effectivement, celle-ci, elle n'est pas folle, elle n'est pas venue. Elle est restée là où elle était, très bien, au bord de la mer, etc. Donc, ce qui déplaît, ce qu'on a souvent qualifié d'échec, du moins dans ce que j'en ai lu, c'est que ce n'est pas les Marseillais attendus qui sont nus, c'est tout un tas d'autres, mais qui ont fait vivre cette rue. Il y avait effectivement les navigateurs, il y avait des commerces, ça a été très, très vivant jusque dans ces très dernières récentes années, je veux dire. Voilà, donc ça a toujours, c'est une rue qui a vécu. Effectivement, je parlais aujourd'hui avec quelqu'un avec qui je travaille à Centre-Ville pour tous, qui me disait effectivement, pour les gens qui passaient ici à Marseille, c'est ce bâti haussmannien, on ne s'attend pas à trouver ces gens-là dedans. Et c'est peut-être un peu cet écart-là qui a toujours ennuyé beaucoup de gens et qui a sûrement fait qu'un fonds d'investissement a décidé de s'y mettre. Voilà, donc terrain d'atterrissage aussi, j'ai noté ça, c'est marrant parce que chez les sociologues, c'est plutôt, on l'appelle plutôt un terrain d'ascension, donc les choses sont de où on les voit, c'est d'ascension sociale, hein, c'était le parcours d'ascension sociale pour tout un tas de gens et ça l'a été et ça l'est sûrement encore aujourd'hui. On parlera plus tard, je l'espère, de la mobilisation des habitants. C'est aussi une des raisons qui a fait que les gens se sont mobilisés, parce qu'on ne pouvait pas dire à des gens qui, à un moment, pour qui l'accès à ce type de logement-là, ça représentait beaucoup de choses en termes d'ascension sociale pour leurs enfants, pour eux-mêmes, de disparaître à nouveau. Donc là, il y avait plein de choses à regarder. C'est très fin et effectivement, il faut travailler à l'échelle d'une rue, elle est très longue, mais d'un îlot, d'un immeuble. Et c'est là qu'on voit aussi vraiment beaucoup les choses, quoi.
Et dans cette longue histoire de tentative de gentrification à Marseille, il y a un épisode qu'Éric Foyard n'évoque pas, un épisode hyper violent qui est évoqué dans ton film, Paul. C'est le dynamitage du quartier de la Fosse, donc, qui était à côté du Panier, une des rives du Vieux-Port. Dynamitage par les nazis. Effectué avec la caution des autorités locales.
Oui. Mais c'est-à-dire que, en fait, cette rue, la rue de la République, est située dans un endroit qui est un endroit de fracture aussi. C'est peut-être ce qui explique un peu cet échec perpétuel. C'est une construction vraiment artificielle dans le tissu de la ville. C'est le moment où la ville se fracture en trois, en quelque sorte. C'est-à-dire que les quartiers sud, effectivement, deviennent des quartiers résidentiels, de loisirs. C'est le milieu du 19e et le cœur, le centre de la ville qui était très animé, qui était le port, qui réunissait toutes les fonctions, se pétrifie à ce moment-là puisqu'on construit un nouveau port et qu'il y a une grande zone dédiée au travail, une zone industrielle, les quartiers nord qui naissent à ce moment-là. Et pour suturer cette fracture, on a bâti cette rue. Avec un problème très clair qui est peut-être lié à la proximité du port. Je pense que la grande bourgeoisie marseillaise n'avait pas du tout envie d'habiter à proximité du port, qui était une usine, quelque chose qui ramenait. On a des témoignages sur le fait que c'était un lieu qui très vite est devenu un lieu de prostitution, des choses comme ça, un quartier effectivement populaire. La proximité donc du Panier, oui, c'est-à-dire qu'il y avait aussi la question qui traînait, qui était la question de la ville ancienne, de la ville historique. Qui est une ville qui a toujours dérangé parce qu'elle était réputée insalubre. C'est vrai qu'il y a eu des épidémies de choléra jusqu'au milieu du 19e. Et elle était réputée insalubre et évidemment fréquentée par des gens pas très fréquentables. Et donc la percée avait aussi pour but de casser ce grand quartier. Ça n'a pas vraiment fonctionné puisque effectivement la rue de la République a été investie par les gens qui habitaient là. Ça c'est toujours comme ça à Marseille. On a essayé de gentrifier la rue d'Aix, ça a été la même histoire. Les gens qui devaient y habiter y reviennent, c'est normal. C'est un feuilleton qui a commencé en 1860 et qui s'est poursuivi effectivement sous l'occupation. À travers la réalisation d'un plan Baudouin qui avait en fait été prévu avant même la drôle de guerre. On était sur le point de mener une grande opération de gentrification du côté du quartier Saint-Jean. Et bien quand les occupants sont arrivés, les Allemands qui avaient une dent contre Marseille, parce que effectivement une ville populaire, une ville où il y avait beaucoup de résistants certainement, c'était un quartier... Un quartier qui est... C'est des quartiers... Parce qu'on parle depuis le début de gentrification comme un phénomène purement occidental. Je crois pas. Hein, je crois pas que ce soit un phénomène purement occidental. Moi, j'ai été à Ouagadougou. Y a des quartiers entiers qui sont rasés. Pour des questions qui sont toujours les mêmes, c'est des quartiers dont le tissu n'est pas fait pour le contrôle policier, par exemple. Les rues sont étroites. Il est facile d'échapper à la police dans un quartier comme le Panier. Et c'était le cas du quartier Saint-Jean. Donc les Allemands sont arrivés en proposant de raser ce quartier, de le dynamiter. Et donc on l'a vidé, on a déporté une partie des habitants, les Juifs, qui ne sont jamais revenus. Il y a eu une déportation assez massive. Et on a dynamité ce quartier, ce qui a permis effectivement de réaliser ce fameux plan Baudouin à la Libération.
Donc dynamité par les nazis, avec la caution des autorités locales. Pierre Laval avait aussi des mots très forts, hein. Il disait qu'il fallait dératiser Marseille.
Je ne sais plus quel terme il emploie, la purifier, et elle en avait grand besoin. Voilà. C'est toujours la même mauvaise réputation de Marseille, qui est une ville qui a toujours proclamé son indépendance vis-à-vis de Paris. 1860, la rue de la République, c'est la balafre parisienne sur le tissu marseillais. Et ça n'a pas cessé, puisque jusque dans les années 80, on était ici dans le Los Angeles, où une ville pas fréquentable en France, quoi.
Et alors, justement, par rapport à la rue de la République, aujourd'hui, on s'interroge, est-ce que cette gentrification va finalement aboutir ou non ? On écoute, avant de parler un peu de ça, on écoute un extrait du film de Paul Erika où apparaissent, par ordre chronologique, Éric Foyard, encore directeur de Marseille République, Renaud Muselier, président de Romy de Darnay et premier adjoint au maire Jean-Paul Gaudin, et deux commerçants de la rue de la République.
Le 31 juillet 2004, Lone Star achetait Marseille République pour réaliser un programme de réhabilitation urbaine majeure, à savoir rénover en rénovation lourde 100 000 m² de logements et 30 000 m² de commerce. Une bonne dizaine d'investisseurs en France et en Europe avaient tous les moyens de cet investissement considérable. Tous ont considéré, après quelques semaines d'études, devant les difficultés, les risques et l'ampleur de la tâche, qu'il valait mieux renoncer. Seul Lone Star a cru avec raison dans la renaissance de Marseille. 20 mois, mais 20 mois seulement, voilà le temps qu'il nous a fallu pour faire ce que nous avions promis et définir notre programme de réhabilitation, puis mettre en œuvre, quasiment avec nos seuls efforts, une politique de relogement humaine et efficace.
Je voudrais saluer tout particulièrement votre travail parce que vous avez su mener dans un endroit particulièrement difficile. Avec la mairie de Marseille et bien sûr Euroméditerranée, dans une rue où systématiquement rien n'avait bougé depuis bien trop longtemps.
Vous n'êtes pas la grosse société américaine qui vient là pour essayer de gagner de l'argent sur le dos des Marseillais. Vous êtes là pour restructurer un espace public, pour gagner de l'argent, pour donner des appartements à des Marseillais qui ont besoin de se loger parce qu'il faut de tout, partout, pour tous. Et que sur l'ensemble du périmètre d'Euroméditerranée, où nous avons fait déjà, en moins de 3 ans, 1200 logements, plus de 600 sont des logements sociaux. Et personne qui n'habite dans le quartier n'a pu, ou n'a voulu, ou n'a souhaité, ou n'a été déplacé. Voilà la vérité. Voilà la réalité.
D'accord, c'est Euroméditerranée, mais Euroméditerranée, il y a aussi quand même le vieux quartier du Panier, des Carmes, de la Joliette, et un passé fort dans ce quartier. Au Panier aussi, ils ont essayé de rénover, mais ça marche, oui, mais il y a quand même des difficultés, quoi. C'est quand même des quartiers. Saint-Lazare, c'était des quartiers un peu ouvriers quand même ici, vous voyez, on passe du, c'est des gens honnêtes, sérieux, travailleurs, mais c'est pas des gens... Là, je vois les gens qui, soi-disant, qui achètent des appartements, il paraît qu'ils, sans hésitation, ils achètent des appartements sur la réserve publique. Moi, je ne sais pas si je rêve ou pas, je ne sais pas. Ou alors, c'est des gens qui ne connaissent pas du tout le truc. Ils arrivent de Belgique ou des États-Unis, je ne sais pas. Mais enfin, ça me paraît un peu démesuré, voilà, je reviens toujours pareil.
Moi, c'est un peu rentré dedans, bien entendu, mais ils vont pas faire un génocide dans ces quartiers non plus. Ils vont pas non plus virer tout le monde, ils vont pas, y a pas un tsunami en vue, ils vont pas faire des fosses communes, ils vont pas tous nous jeter dedans, ils vont pas pouvoir. Donc ils vont faire beau sur le front de mer, ils vont faire beau à la République, au Vieux-Port, à la Canebière. Restera quand même le panier il est un peu réhabilité, mais il reste encore ils sont un peu manqués. Il reste encore Camille Pelletan, quand même Belzunce, il reste encore des gens un peu normaux. Et ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire venir des gens qui vont acheter des appartements à prix d'or, ils vont même construire des petits îlots au milieu des trucs, je sais pas, des petits îlots de, grand standing. Hein. Et ces gens-là vont se retrouver avec autour des gens qui n'ont pas envie de voir, c'est clair, ils n'ont pas envie de les voir. Le discours, c'est même, ne vous inquiétez pas, vous pouvez acheter, ne vous inquiétez pas, en 2008, ce sera réglé. Moi, je doute. Ou alors, ça va vraiment faire un gros scandale. Hein. Mais bon, en 2008, il n'y aura rien de réglé. Ouais. Donc, la viabilité, elle est clairement posée. À mon avis, là, ça va faire très mal. Ça va se casser la gueule. C'est pas très grave, puisque de toute façon, c'est financé par l'argent public. C'est pas leur argent. Hein. Ces gens-là jouent pas avec leur argent. Hein. Ils jouent avec le nôtre. Accessoirement, moi, si j'ai la possibilité de faire jouer avec l'argent des autres, c'est nettement plus facile, les choses. Moi, j'ai toujours entendu parler, c'était la réhabilitation de la rue de la République. Depuis toujours. Il y a eu des projets, des maquettes, on a tout vu passer. Notamment quand ils ont fait la réhabilitation du panier et compagnie.
En gros, ça fait 20 ans qu'on entend parler de la réhabilitation du quartier. Quoi.
Je sais pas, moi j'en ai toujours entendu parler. Donc vraiment, c'est ici, le serpent de mer. Quoi.
Paul, tu peux nous présenter ces deux commerçants ?
Oui, alors on a entendu Vincent Abad, qui est un commerçant qui tenait une boutique, une presse, il me semble, à l'endroit même où aujourd'hui... s'est installé le bureau de vente de Marseille République. Et on a entendu aussi Vincent Mounet et Corinne Ricard, qui eux tenaient une boutique de corsets, les corsets Sylvie, sur la rue de la République, et qui ont dû, après des négociations à rebondissement assez incroyables, enfin, pendant 2 ans, ils se sont battus pour essayer de partir dans des conditions acceptables. Et à l'heure qu'il est, ils n'ont pas encore retrouvé de boutique, alors que la leur n'a pour l'instant pas été... Enfin, ne sert à rien. Ce qui est très curieux, c'est que la rue dont on parle aujourd'hui, si vous vous y baladez, les grandes marques qu'on y attendait, elles n'y sont pas. Dernièrement, il y a, je crois, Swatch, ou une grande marque de montres qui est arrivée à Marseille. On aurait pu s'attendre à ce qu'ils arrivent rue de la République. Ils se sont installés... comme les bourgeois du 19e siècle, ils se sont installés rue Paradis, c'est-à-dire pas du tout du côté où on les attendait. Ce qui est intéressant, là, dans le propos de Renaud Muselier, c'est qu'il parle des logements sociaux. Il faut préciser que sur la question des logements sociaux, il y a eu tout un tas d'embrouilles aussi. C'est-à-dire que Marseille République s'est dépêché de rénover des immeubles, mais d'une façon catastrophique. C'est des immeubles qui ont été rénovés vraiment à la va-vite pour pouvoir les livrer effectivement à des bailleurs sociaux, dans des conditions assez catastrophiques. Et c'est au moins un de ces bailleurs sociaux a dû même se voir forcer la main pour accepter ces lots qui ne correspondent pas du tout aux normes du logement social. Donc on voit bien qu'on est dans une espèce d'alibi, comme ça, de dire, vous voyez, on fait ce qu'il faut, mais en fait, on ne fait pas du tout ce qu'il faut. C'est du très mauvais travail. En général, la réhabilitation de la République, il faut voir quand même qu'on a donné à ce fonds d'investissement américain, avec son fauné Marseille République, on leur a donné des appartements qui étaient des appartements anciens, avec des tomettes au sol, des pierres de... des pierres de cassis, des cheminées, et que, en gros, ce qu'ils ont fait dans les immeubles, c'est qu'ils ont coupé certains appartements en deux pour pouvoir avoir un étage au-dessus, c'est-à-dire que c'est plus du tout des appartements avec des hauts plafonds, c'est plus du tout des appartements typiques marseillais, c'est du toc, hein, il faut bien dire ce qui est, et c'est un peu un massacre, on va dire.
Vincent.
Moi, en fait, j'avais envie de réagir. C'est vrai que même par rapport, surtout par rapport au terme en fait de gentrification, moi j'ai l'impression qu'on est vraiment dans des situations de spéculation où il y a évidemment des collusions entre des intérêts économiques privés et les autorités. Et même si ces opérations sont plus ou moins des échecs, etc. Bon, évidemment, les gens qui habitaient là ont dû partir. C'est laissé en plan et alors on a le moment de la guerre où ça s'accélère sur un projet qui était écrit en 31 par les autorités marseillaises quoi. Donc moi je le ressens plus, cette histoire de la destruction des quartiers du Vieux-Port, comme un projet très marseillais quoi. On a profité de l'occupation pour tout détruire rapidement, déporter, etc. Et ça se poursuit, on est en guerre quoi. On sent que c'est la destruction qui permet la régénération d'un système économique qui fonctionne à vide sur des formes de violence et qu'on retrouve qui se mettent qui se développe autrement, on va dire, à l'étranger, quoi. Ce qui se passe en Irak, etc. Bon, ben, c'est à une autre échelle, à une autre vitesse, mais pour moi, c'est la guerre, quoi.
Oui, ben, il faut dire qu'on parlait de ville pionnière par rapport à Bruxelles, mais il y a une ville qui est extrêmement exemplaire du point de vue de ce processus de grignotage et de guerre de territoire. Bon, Paris est un assez bon exemple, hein, mais Jérusalem, c'est une ville qui, en ce moment, vit une guerre de quartiers extrêmement forte, puisqu'il s'agit de faire avancer des territoires israéliens sur des quartiers arabes. Voilà.
Ouais, ou Beyrouth, ce qui a pu se passer à Beyrouth, quoi, avec tous les projets de reconstruction, de destruction, de reconstruction qui font tourner les économies, etc., quoi, au détriment des gens qui vivent là, qui essaient de survivre ici, quoi.
Ou, comme je disais tout à l'heure, Budapest, où la sortie du bloc l'arrivée du libéralisme, tout d'un coup, toute la ville est vendue pratiquement parce qu'il faut faire de la devise et qu'il faut racheter. Où là, on voit le phénomène hyper rapide, quoi, peut-être plus que ailleurs encore.
Parce que c'est vrai, ce qu'on voit à Marseille, depuis 10 ans, les loyers ont quadruplé, quoi. Et les appartements, c'est quasi les mêmes qu'il y a 10 ans. Ils sont en aussi mauvais état ou rénovés n'importe comment, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a des intérêts qui ne sont pas partagés là-dessus, quoi.
Et donc les habitants étaient très mobilisés, rue de la République. Où est-ce qu'on en est ? Qu'en est-il de cette mobilisation ? Ils ont été forcés à partir. Et qu'est-ce qui reste ? Enfin, où est-ce que ça a mené ces habitants ?
Bon, je vais prendre une autre casquette là, enfin, ou je ne sais pas si je l'avais déjà prise avant. C'est celle de... Bon, je suis artiste, ça c'est sûr. Je travaille en ce moment dans une recherche-action. J'espère qu'on y reviendra aussi, parce que c'est quelque chose qui vient d'une longue histoire aussi dans les quartiers. Donc je vais reprendre la casquette de militant. Alors pour beaucoup de gens, militant, c'est devenu un gros mot. Mais militant, c'est aussi s'intéresser à toucher, enfin prendre la cause de l'autre. Et moi, ça m'est arrivé sur la rue de la République et je suis rentrée dans Centre-Ville pour tous, qui est une association qui a travaillé d'abord sur Belzunce, hein, pour la défense des droits des vieux travailleurs immigrés qui étaient là depuis toujours. Et quand j'étais à la compagnie, quand je travaillais à la compagnie, en fait, je suis rentrée dans cette association-là parce que j'avais un désir, tout simplement un désir de politique, parce que ça ne me plaisait pas, que j'avais envie de pouvoir changer deux ou trois trucs. C'est comme ça que je suis rentrée dans Centre-Ville pour tous, et c'est comme ça qu'en quittant la compagnie, je trouvais que j'avais un peu de temps, et que je me suis retrouvée rue de la République. Alors oui, effectivement, les habitants se sont mobilisés. Alors tu m'as demandé tout à l'heure de faire un peu l'histoire. Si on reprend l'histoire très très récente, quand on est arrivé rue de la République, avec Centre-Ville pour tous, il y avait à peu près 60% du patrimoine acheté par, on dit, fonds d'investissement américains, pour aller vite. Hein. Il y a plein de Français, il y a les excédents de trésorerie du Fonds monétaire international, on verra ce qu'en fait Strauss-Kahn.
Et de la Banque mondiale aussi.
De la Banque mondiale, il y a tout un tas. Bon, on dit américain parce que ça nous arrange, mais enfin, bon, c'est un peu rapide.
C'est par l'intermédiaire de ce fonds d'investissement. Hein.
Oui, voilà, mais enfin, c'est du pognon qui nous passe au-dessus de nos têtes par millions de dollars, mais enfin, peu importe, mais c'est tombé un peu sur la tête des gens. Et quand on est arrivé, bien que c'était amplement prévisible, hein, tout ça, quand on est arrivé rue de la République, il y avait à peu près 60% d'appartements qui étaient vides. Hein, et ça, c'était plutôt intéressant, parce que comment un propriétaire peut continuer à faire de l'argent avec des appartements non loués ? En fait, la rue de la République, toute aussi sale et pas entretenue qu'elle était, par les pouvoirs ou par les propriétaires, ce qui n'est pas le cas des locataires qui entretenaient très bien leurs immeubles et leurs appartements, et même les immeubles, ça c'est vrai aussi, rapportaient beaucoup d'argent à ses propriétaires. Donc c'est même vide, même sale, même en déclin, même tout ce qu'on veut, il y avait déjà des gens qui faisaient de l'argent, et c'est pas vrai que ça tournait pas. L'argent, il a toujours tourné rue de la République, c'était un bon rapport. Voilà, sauf qu'on arrive à un moment, nous, dans ce cas de figure, je dis nous, la Centre-Ville pour tous, effectivement, il y a eu un moment de choses comme ça qui sont hyper fortes pour moi à vivre, en tout cas, qui sont des trucs collectifs où on peut peut-être avoir un peu le rêve qu'en s'y mettant ensemble, on y arrive un peu. Et ça a été, je crois, facilité parce que ces locataires, on avait un ennemi commun, là, voilà, qui était ce fonds d'investissement. Et ça, c'était plutôt agréable. Donc, on a réussi effectivement une mobilisation des gens. hein, qui d'un seul coup étaient des gens qui avaient toujours payé leur loyer, qui étaient honnêtes comme tout le monde, et qui, à qui on disait, bon, ça fait un peu vieille lune là de rappeler ça, mais que la mairie disait par la voix de son adjointe au logement qu'elle ne souhaitait pas que les 600 familles restant encore dans le quartier soient relogées sur place. Elle ne le souhaitait pas. Bien. Et ça, c'est des choses qui nous ont vachement servi à mobiliser, parce que de quel droit, déjà, elles ne souhaitent pas ça. Les gens, que je sache, ils habitent où ils veulent, et ils habiteraient où ils veulent. Donc on a fait quelque chose que moi, j'ai beaucoup aimé, qui était de la mobilisation, mais il y a aussi des choses que je vois dans des films ou des trucs comme ça, c'est de considérer les habitants comme des victimes. Eh bien non, on peut se battre, et on peut se battre aujourd'hui. On a des armes, et on a des moyens, et on a des outils. Et en l'occurrence, les gens se sont battus, et nous, on a essayé de construire, avec les gens bien sûr, hein, quelque chose qui était de l'ordre de la défense, tout simplement des droits. Alors pas de la défense des droits des pauvres, ni des exclus, ni tout ça. Simplement, il y a des gens qui ont des droits quelque part, et on est encore dans un pays où on peut aller rappeler de temps en temps que les droits, ça doit exister. Donc c'est simplement ce qu'on a fait, c'est qu'à un moment, des gens qui sont locataires, qu'ils soient en loi de 48, une vieillerie de la guerre aussi, en loi de 89 ou même habitants d'hôtels meublés, ont des droits et que ça doit être respecté. Et c'est simplement ce qu'on a fait pendant plusieurs années. Donc c'est pas facile, c'est très dur pour les gens. C'est vrai que nous, les gens du centre-ville pour tous, on n'habite pas sur la rue. Donc, on a une espèce de distance aussi qui nous permet l'action sans la peur. Et on a travaillé comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a réussi ces mobilisations, que c'est du long travail et du travail de tous les jours. On tient encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, une permanence tous les 15 jours où il y a énormément de gens. Et cette permanence, c'est un lieu de travail où on essaye de mettre en commun ce qui arrive aux gens, de l'analyser ensemble et de trouver des solutions ensemble. Voilà, que ça puisse comme ça faire école, qu'on puisse se structurer un petit peu par immeuble, par îlot, etc. Savoir ce qui s'y passe, les dernières embrouilles, comment on y répond, comment on se bat. Et on peut gagner. C'est pas vrai qu'il y a le gros rouleau compresseur aujourd'hui, c'est vrai qu'il est là. La guerre, c'est sûr, la guerre aux pauvres, elle est déclarée depuis longtemps. Mais on peut se battre, on peut se battre non pas avec les moyens. Marseille République a des milliers d'avocats, on peut pas se battre comme ça, nous, mais on peut se battre autrement. Et on... J'espère et qu'on l'a été, et je pense qu'on l'a été, et cette espèce de petit grain de sable à un moment qui vient bloquer une énorme machine. Effectivement, c'est ce qu'on a fait simplement en faisant appel à cette communauté de droits des locataires. Voilà, ça existe, c'est réel, on peut travailler là. Et effectivement, on a fait respecter le droit des gens. Tout simplement, on n'a pas fait plus ni moins, et on l'a fait avec les gens, avec les simples gens de la rue. On a fait ça, et je pense que ça, on peut le faire partout. Faire respecter le droit des gens, ça existe. Donc, on a fait notre boulot. Là, on est allé frapper aux portes de l'État, qui est quand même un truc qui tient encore un peu debout, et où on est allé dire non, mais là, faites votre boulot. Enfin, je veux dire, il y a des droits, allons-y. Quoi, il y a la loi, elle s'applique aussi à un fonds d'investissement. Et petit à petit, comme ça, avec des victoires, parce qu'on en a eu, des gens sont relogés en logement social ou pas, on y reviendra. Là où ils le veulent, au prix où ils étaient logés avant, parce que c'est la loi, parce que c'est comme ça, parce qu'on ne met pas des vieux dehors, parce que des gens en loi de 48, on ne les met pas dehors non plus, ni même les autres. Voilà qu'il y a des trucs à faire. On a simplement fait ça. Et effectivement, le préfet s'est engagé très tôt et a dit qu'il n'y aurait pas d'expulsion, et il n'y en a pas eu. Sauf évidemment les expulsions des squatteurs, mais ça c'est un autre gros problème, très compliqué, et qu'on ne peut pas, il faudrait carrément une heure et demie aussi pour en parler de ça. Voilà, donc les gens qui étaient là sont relogés sur la rue même, sur place, dans certains des logements sociaux, pour ceux qui ont les plafonds de ressources qu'ils permettent. Voilà, donc il y a des batailles qui sont gagnées, d'autres qui sont perdues. Mais il faut se battre en tout cas. Enfin, c'est toujours ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est possible aujourd'hui d'intervenir peut-être à la marge. On ne va pas remettre en question le capital, enfin tout ça... À la limite, moi, je m'en fous, mais à l'échelle des humains, à l'échelle des habitants, des gens qui vivent dans cette ville, on peut faire quelque chose, quand même.
Et alors, est-ce que ces petites victoires avec les habitants et le fait qu'on ait appris cet été que Lone Star cherchait déjà à revendre ses appartements immeubles avant même la fin de la réhabilitation, est-ce que tout ça, c'est un signe d'un nouvel échec de gentrification de cette rue de la République?
Je ne sais pas du tout. Moi, à la limite, le Lone Star fait son travail de fonds d'investissement. J'en attends pas plus. Ils sont venus là, ils vont faire de l'argent, plein. Celui qui avait avant, là, l'ancien propriétaire qui s'appelait P2C, il a fait plein de sous sans avoir passé un coup de pinceau. Hein. Celui-là fera plein de sous aussi, je veux dire. Après, ils s'en vont, ça sera un autre. Donc, on a décidé maintenant qu'avec notre expérience, bah, le prochain fonds d'investissement qui arrive, nous, on va l'accueillir. On va aller lui dire bonjour, on va lui souhaiter la bienvenue à ce fonds d'investissement. Donc, bon, ben voilà, ça passera, il y en a un autre qui viendra. Bon. Un échec, j'en sais rien. Non, moi, je pense qu'ils vont faire quand même de l'argent, même si ça ne sera certainement pas dans ce qu'ils espéraient. On entend des muselier tout à l'heure juste qui disait un truc bon rigolo pour donner des appartements marseillais. Bon, bah, 4000 euros le mètre carré, c'est pas quand même donné, surtout quand on voit ce que c'est au niveau réhabilitation, justement. Bon, voilà, donc elle est quand même bien, ça a bien bougé, hein, la rue, là, tu parlais tout à l'heure des grandes marques, effectivement, nous, grandes marques, on pense truc de luxe, c'est pas tellement, même moi j'ai fait l'erreur au début, c'est pas tellement ce qui était attendu, hein. Les grandes marques, c'est H&M, c'est la grande distribution, et effectivement, ils arrivent, ils sont là, surtout dans la partie qui n'appartient pas au fonds d'investissement américain. Il y a un autre fonds d'investissement sur la première partie de la rue, qui lui a une autre logique, qui est une logique patrimoniale, il n'a pas l'intention de partir, ni de vendre, il reste. Voilà, donc il y a deux logiques comme ça qu'on voit à l'œuvre sur cette rue qui sont très intéressantes à regarder. Hein. Mais effectivement, les grandes marques de la grande distribution arrivent, elles sont là, de toute façon, c'est fait, quoi. Et pourquoi pas, hein, après tout. Bon, moi, les commerçants, c'est pas mon truc, hein, je le dis clairement, c'est pas mon truc, tu vois. Parce qu'ils ont, juste je termine sur ça, parce que c'est important, on dit, ouh là là, ils sont partis, tout ça. S'ils sont partis, c'est parce qu'ils ont négocié, qu'ils ont été indemnisés. Donc, bon, il faut relativiser aussi. Hein. Il y a des gens qui n'ont pas eu de chance, comme Vincent Abad, mais les autres sont partis avec des indemnités tout à fait normales, on va dire.
Il n'y a pas que Vincent Abad. Hein.
Non, il y en a d'autres. Mais moi, je ne connais pas le cas de commerçants qui sont partis une main devant, une main derrière. Hein. Ils ont vendu les fonds, ils ont été d'accord pour le faire. J'avais vu ça dans d'autres endroits aussi. Donc, pour moi, les commerçants, c'est une autre paire de manches. Ils ont sûrement beaucoup de problèmes, hein, mais... En tout cas, moi, je suis moins touchée par ce qui leur est arrivé quand même.
C'est-à-dire que le problème, ça fait partie des fragilités de la rue. Et comme souvent, c'est-à-dire que les commerçants ne sont pas du tout dans la même situation que les locataires. Ils sont dans une situation de concurrence à la base, de concurrence. C'est-à-dire qu'il a été beaucoup plus difficile de fédérer ou de grouper des commerçants sur la rue, il me semble, que les locataires à travers Centre-Ville pour tous. Quoi.
Donc on parlait de là, Martine, tu évoquais les grandes marques. On entendait parler de marques de luxe. Celles-là sont pas, en tout cas, encore arrivées. Par contre, on voit arriver H&M, par exemple, et Monoprix, qui sont pas des marques de luxe, mais qui sont quand même des marques pour des classes moyennes, pas pour les classes populaires qui occupaient la rue de la République auparavant. Ça me permet de décaler un peu l'angle d'attaque du sujet avec cette histoire de classe moyenne en France. Alors on disait tout à l'heure aussi que la gentrification n'était pas seulement occidentale. Finalement, c'est peut-être en fait un phénomène propre au système économique ultralibéral ou libéral tout court. Alors, et en France, en tout cas au moins, la culture est invité à investir ses quartiers populaires en voie de gentrification. Selon les géographes Christophe Guy et Christophe Noyer, il y a 5 étapes pour une gentrification réussie. La première, c'est le déclin des ouvriers, remplacé par les employés, et l'arrivée des pionniers, qui sont des artistes, des étudiants et des squats alternatifs. Deuxième étape, valorisation du quartier avec développement des lieux culturels qui sont des bars branchés, des galeries d'art, des salles de spectacle. Troisième étape, arrivée des cadres supérieurs. Pendant ce temps-là, les ouvriers continuent à partir. Quatrième étape, forte progression des cadres supérieurs. Les classes populaires, elles, déclinent. Les populations pionnières, donc les fameux artistes, étudiants, squats alternatifs, là, se font évincer du quartier. Et cinquième et dernière étape, opération immobilière par des promoteurs avec réaménagement urbain, donc des rues piétonnes, des jardins et des pistes cyclables. Alors vous, en tant qu'artiste, comment vous vous positionnez par rapport à ce rôle, malgré vous, de gentrificateur? Vincent, peut-être, on ne t'a pas beaucoup entendu. Donc ouais. Tu es artiste de La Compagnie, qui est implantée à Belzunce.
Moi, par rapport au descriptif de processus, je pense que la question du pourrissement n'a pas été assez posée. Bon, c'est vrai que c'est les techniques de la CIA, par exemple, dans certains quartiers américains, où la CIA introduisait la drogue dans le quartier, ça générait des conflits, etc., des problèmes, une médiatisation de la violence, et après un constat consensuel par tout le monde que c'est plus possible, que c'est sale, que les gens se battent et qu'il faut tout raser, etc.
Alors on peut introduire la drogue pour faire pourrir le quartier, puis on peut introduire les artistes pour gentrifier petit à petit.
C'est un peu ce qui s'est passé au Panier, en tout cas, hein, au niveau de... ou à Belzin, c'est un certain moment, il y a eu... quelque chose, une tentative de faire pourrir les choses. Bon, les artistes, au niveau de la compagnie, c'est un peu particulier parce que c'est un local qui a été créé sur une volonté municipale avec des fonds européens. Et le premier collectif qui s'occupait du lieu, en fait, venait de la rue, ils faisaient des ateliers dans la rue. Et quand ils ont récupéré cet atelier d'artiste, parce que c'est pas une galerie d'art, la compagnie, ils ont décidé de travailler sur l'ouverture et dans la relation avec l'autre et le quartier, quoi. Donc après, en tant qu'artiste, moi, par rapport à ces questions-là, c'est des parcours personnels. Je crois qu'on est tous instrumentalisés par des choses qui nous échappent aussi. Hein. Après, voilà, selon les pratiques de chacun, il y a beaucoup de moments sur Marseille, il y a beaucoup d'artistes qui sont arrivés parce que les loyers n'étaient pas chers. Et que ça permettait de travailler, quoi, tout simplement. C'est la question du travail artistique, quoi. Et au bout d'un moment, en 10 ans, ça a quadruplé. Le niveau de vie a plutôt stagné. Donc on se demande comment... Du coup, il y a pas mal d'artistes qui sont partis de Marseille aussi. Après, sur le quartier Belzin, sur la partie sud, c'est vrai que la ville a vendu... Il y a une rue, comment elle s'appelle ? La rue Tubano, vraiment sur ce discours-là, quoi. Que le quartier avait changé, que c'était propre.
Le tramway, l'Alcazar.
Il n'y avait pas encore le tramway à l'époque, mais que c'était que ça allait rentrer dans une dynamique. Il y a des galeries qui sont ouvertes. Maintenant, ils sont en train de revenir par rapport à des galeries marchandes d'art, quoi. Ils sont en train de revenir par rapport à ce qui s'est passé, ce qui a été dealé aussi, parce que c'est des choses qui sont dealées avec la ville. Et moi, c'est vrai que par rapport à l'expérience de Bruxelles, on peut réarticuler ça à la volonté de la ville de changer son image, en fait. Mmh. Où pendant longtemps, on était vraiment dans l'histoire dans une image de la Chicago napolitaine presque. Hein. Et depuis 12 ans, c'est le gros projet politique de la ville, changer l'image, quoi. Donc le TGV, Coupe du Monde, Massalia, tramway et les élections.
America Cup aussi, presque.
Ratage de la Meritage Cup et dans quelques mois, les élections, quoi. Et en même temps, c'est difficile de se dire... c'est vrai que sur le périmètre Euromètre, ça a énormément construit, mais on est dans le cloisonnement urbain, quoi. On construit des voies autoroutières qui vont arriver au siège social des entreprises qui sont en train de construire, et ça n'a aucun lien avec... on est dans les cloisonnements, quoi. On pourrait construire des murs, et il y a des activités qui n'ont aucun rapport, des gens qu'il ne faut absolument pas qu'ils se voient. On est dans un système proche, je caricature un peu, mais où j'envisage l'avenir de manière un peu négative, mais comme l'apartheid, quoi.
Alors, cette question de la place des artistes comme gentrificateurs commence à émerger, même à poser problème aux politiques. Martine, tu étais justement à un séminaire qui organisé par le ministère de la Culture, si je ne me trompe pas, qui s'inquiète un peu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce qui ne se passe pas comme prévu ?
Ce n'est pas qu'ils s'inquiètent, c'est juste des gens qui réfléchissent. Mais effectivement, il y a une volonté. Hein. On n'arrive pas dans les quartiers avec des financements, qu'ils soient municipaux, européens ou autres, par hasard. Je veux dire, il y a quelque chose qui veut des artistes dans les quartiers en réhabilitation. Il y a une volonté. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec cette volonté ? Qu'est-ce qu'il nous veut ? C'est vrai que moi, quand je suis rentrée aussi à la compagnie, après les 3 premiers fondateurs, j'ai cherché un petit peu ce qui avait voulu un tel équipement. C'est-à-dire, c'est quand même un lieu, on ne voit rien à la radio, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très très beau lieu. C'est très bien réhabilité, c'est un espace de travail génial. Donc moi, j'étais vraiment ravie d'aller travailler dans cet endroit. En même temps, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'ils nous voulaient, qu'est-ce que je pouvais faire avec cette volonté-là. Je crois qu'on peut avoir des subventions pour travailler dans les quartiers en réhabilitation, même quand, en l'occurrence, il était dit pour la compagnie que cet outil-là, de la culture, servait à renouveler, je cite, la population du quartier. Bon, ça ne marche pas, hein. La population, comme il parle, elle est toujours là. Mais en tout cas, il y a ça qui est voulu de nous, les artistes, ou en tout cas, je le sentais comme un truc personnel à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette volonté-là sur soi? Moi, je trouve que c'est un bon matériau de travail. Et les fondateurs de la compagnie, donc on peut les citer, Estelle Fredet, Thierry Crombet, Valérie Jouve, d'accord, travailler sur une ouverture avec le quartier, mais ils avaient aussi un propos artistique. Et je pense que ce qu'on a d'abord à faire, c'est faire de l'art. On fait notre boulot d'artiste dans ces lieux-là. Et eux avaient pour projet de représenter le quartier et d'interroger tous les changements qui sont en cours. Et ça, je trouvais que c'était un beau projet artistique. Ils avaient publié une revue qui s'appelle L'Inventaire, qui a fait plusieurs numéros. Et cette volonté d'interroger la réhabilitation, la transformation d'un quartier, comme un endroit où il y avait beaucoup de devenir, en fait, de ville, qui était comme ça devant nous, alors vers quel devenir on allait aller. Et ça, c'était un vrai boulot d'artiste, et ça était le propos des artistes. Et je pense que après avec Vincent, Paul, on a repris ce travail-là de qu'est-ce que c'est que d'être dans cet endroit et qu'est-ce qu'on y fait. Alors, je crois que notre boulot, c'est d'y faire de l'art. Après, on peut interroger les transformations en cours et puis essayer d'être un peu utile à notre époque en tant qu'artiste, en tout cas, puisqu'on travaille l'image et qu'on parle de changer l'image. Voilà, donc la compagnie est un lieu qui a été voulu comme ça, pour changer la population du quartier. Il est clair qu'un lieu d'art contemporain, ça fait venir d'autres gens dans le quartier. Voilà, donc c'est aussi des volontés politiques très réalistes. Hein. Après tout, on y constate ça. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui est voulu de nous? C'est ça qui m'importait, moi, quand j'étais à la compagnie. Qu'est-ce que je fais avec ça? Voilà, donc moi, je pense aussi que tous les artistes qui sont dedans, Vincent le fait, Paul le fait, je l'ai fait, on doit produire à un moment, on doit travailler. On produit des œuvres et voilà, ça c'est notre boulot. Après, effectivement, Vincent parlait des parcours personnels. C'est vrai que moi, d'être à la compagnie dans ce quartier, de voir ces réhabilitations en cours, ça m'a donné l'envie de, très clairement, de faire quelque chose qui est politique. Voilà, mais je me mélange pas les pinceaux, du moins je l'espère. Quand je produis des formes, mon travail d'artiste, ce sont des formes. Après, je m'assois pas sur mes désirs, mes rêves, que ce monde-là, il me plaît pas, que j'ai envie de le changer aussi. Mais je travaille, je fais des formes, c'est du temps, des espaces, des volumes, de tout un tas de trucs. Et puis voilà. Donc c'est travailler dans ces tensions-là qui était passionnant et qui, j'imagine, l'est toujours à la compagnie aujourd'hui. C'est un endroit que je trouve exceptionnel pour les artistes, pour réfléchir et qui a cette fonction, quoi, de toute façon.
Et c'est vrai que la question que ça pose, tout simplement, c'est l'usage de l'art, quoi. Bon, c'est vrai que la compagnie, on n'est ni une galerie, ni un centre d'art, ni un centre social. Et c'est vrai que là, ce soir, il y a l'ouverture grosse expo au musée d'art contemporain avec beaucoup de structures associatives, on va voir aussi quelle conception et quelle pratique ont les artistes de la création, quoi, et quels sont les enjeux ou les non-enjeux de la création, parce que c'est vrai que c'est vrai que moi personnellement, au niveau de la compagnie, je travaille beaucoup dans la rue, en relation avec les gens, à travailler avec eux. Je pense que l'espace quand même de la compagnie tel qu'il avait été pensé à l'époque, c'était vraiment de faire un atelier où les artistes seraient dedans, dans leur tour d'ivoire, à imaginer ou à construire des belles choses, point barre, quoi. Donc c'est vrai que dans quel rapport on est avec la création, quoi, ça c'est important, quoi.
Oui, Corinne, tu peux peut-être nous raconter ici même.
Compléter un peu tout ça, oui, je trouve qu'il faut vraiment là aussi éviter les discours généralistes sur l'art. Moi, quand je suis arrivée ici, la plaquette d'Euroméditerranée, je l'ai regardée. Et j'ai vu par exemple le quartier du Panier présenté avec la cerise sur le gâteau et son lot d'artistes, ce qui donne de la valeur au quartier. Et les artistes et les formes, enfin les pratiques artistiques proposées, c'était enfin j'ai rien contre l'artisanat, mais c'était des potiers, des fabricants de bijoux, voilà, et c'était la pratique artistique proposée pour faire monter les prix au panier, quoi. Enfin, c'est très bien et très joli, cette plaquette, d'ailleurs. Quand il s'agit de parler de formes artistiques un peu plus compliquées à expliquer, là, tout d'un coup, ça bug au niveau de la communication, on est bien emmerdé, on ne sait pas comment dire, comment parler des pratiques, peut-être justement des artistes qui sont à la compagnie, comment nommer ces formes artistiques, là, on est tout à fait... démunis. Voilà, donc ça c'était une chose pour compléter ça. Puis après, je trouve aussi, on n'a peut-être pas assez. Enfin, nous, notre expérience. Enfin, je reviens à. Voilà, il y a aussi peut-être une dérive. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays, mais en France, c'est assez symptomatique en ce moment avec toutes les histoires de concertation et de participation où ces processus politiques ont quand même, je trouve, développé. Un truc bizarre, quoi, où il y a des espèces d'artistes professionnels de la concertation et de la participation, une espèce de nouvelle catégorie d'artistes, là, je trouve, où on peut aussi s'interroger sur, là, pour le coup, quel jeu on joue, quoi, en entrant dans... On a nous-mêmes tenté nos propres expériences il y a quelques années là-dedans, vu qu'on était... un peu identifier le collectif ici même comme un collectif d'artistes qui questionne les usages de la ville. Donc évidemment, en plus, en utilisant des mots, notre langage. Donc là, du coup, ça devenait très tentant dans ces processus de nous inviter. Bon, on a fait 2-3 expériences, puis on s'est vite parti parce qu'on voyait bien que c'était pas là qu'on pourrait garder notre liberté de parole et une éthique relationnelle qui était importante pour nous. Donc voilà, cela dit, nous on fait vraiment un travail aussi qui est vraiment en lien avec les usages de la ville et donc on le continue quand même ce travail, quoi, voilà. Et juste pour finir, par rapport à l'expérience grenobloise, où effectivement nous on a vécu donc une expérience où au jour d'aujourd'hui, après des années de bataille, on avait donc, tu disais... ce qui est voulu de nous, on voulait pas de nous. On a ouvert un lieu de façon illégale, un squat. Là, je parle du Brise-Glace, qui c'est pas ici même. C'est vraiment un collectif d'artistes dans lequel on est acteur. Donc là, c'était une volonté qui est venue de nous, en fait, et pas de la ville. Et il se trouve qu'effectivement, donc forcément, je pense que là, on est instrumentalisé, puisque tous nos discours sur ce bout de ville ont été utilisés par les politiques. On a fait presque un travail pédagogique auprès d'eux pour qu'ils sachent parler de ces espaces et de ces lieux. Et qu'aujourd'hui, ça devient une zone de mixité, avec le rêve que ça va marcher, que les investisseurs vont arriver et acheter. Mais ça, on n'est pas du tout sûr que ça marche. Puis ils n'ont pas trop été voir à côté si ça marchait. Hein. C'est une espèce de... modèle comme ça qu'on a dans la tête, quoi. Et nous on est là, notre bâtiment, le Brise-Glace reste debout, l'archipel des squats qui était un peu on en parlait comme ça à Grenoble, tout a été rasé autour de nous, donc on reste un grumeau lézardé au milieu d'une zone, un petit bijou de nouvelles zones, bien réhabilitées. On se demande même, nous, si ça, l'interrogation, c'est est-ce qu'il faut rester dans ces endroits-là et non pas se retirer ? C'est un peu, je parlais de territoire tout à l'heure, nous, en ce moment, si on est dans des problématiques, on ne fait que passer quelque part, c'est parce qu'on n'a plus de territoire, en fait, on est dans le deuil de notre propre territoire en ce moment, quoi. Et c'est assez violent, ça. Nous, on n'a pas, notre expérience un peu militante n'a pas donné que des choses positives, loin de là, et qu'il y a un vrai deuil, une vraie douleur. Qu'on en parle peu de ça, malgré le fait que je crois qu'on a eu une position assez exemplaire, c'est-à-dire on a été acteur de ces lieux-là avant toute opération de concertation, avant même que la ville ne soit propriétaire des lieux, pour des raisons qui n'étaient que, c'était le seul espace, on était dans une urgence, on a pris un lieu, on l'a occupé, on a travaillé là, voilà. Et aujourd'hui, je ne joue pas.
Mais ça ressemble fort à cette théorie des 5 étapes de la gentrification réussie. Alors, Gwen, comment ça se passe en Belgique ? Est-ce que la culture et les artistes sont aussi un peu instrumentalisés dans ce processus de gentrification ?
Oui, exactement pareil. Et peut-être qu'il y a même... Enfin, je ne vais pas généraliser, mais disons, moi, de mon expérience... ou des expériences que je peux voir à Bruxelles, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune conscience sociale et politique chez les artistes. Alors je généralise en disant ça, mais ça c'est le truc qui me frappe le plus. Et donc, je ne me considère pas comme un artiste quand j'agis par exemple dans le cadre du quartier Midi, c'est en tant qu'habitant ou comme tu disais tout à l'heure, oui, en tant que militant. Mais allez, je crois qu'il y a différents mouvements. Il y a le mouvement spontané de certains de vouloir s'installer dans un quartier parce que c'est pas cher, parce qu'on peut avoir des grands espaces, parce que les gens sont sympas, la vie est pas prétentieuse. Mais on n'a pas conscience de ce qu'on amène en faisant ça. Et même si on est dans des conditions financières qui sont pas extraordinaires et qu'on pourrait peut-être pas aller s'installer ailleurs dans la ville, on amène une, entre guillemets, valeur ajoutée qui sert les intérêts des politiques. Et quand des opérations comme ça se passent une fois, deux fois, dix fois, et que malgré ça, il n'y a pas de conscience qui naît de ça, c'est, voilà, quand on, c'est ça qui est très questionnant, je trouve. Donc moi, je vois un bar branché ou un atelier d'artiste ou un squat artistique qui s'ouvre dans un quartier, je me dis que c'est le début des problèmes, vraiment, très clairement.
Bon, bah, je crois qu'on va devoir s'arrêter là-dessus. Et oui, il faut laisser la place. C'est passé un peu vite, c'était fort intéressant. Merci beaucoup à vous tous, Martine Derain, Corinne Pontier, Vincent Bonnet, Gwenaëlle Bresse et Paul Erika, d'être venus participer à cette émission. Merci à Sébastien, à la technique, et merci à vous qui nous écoutez. J'en profite pour vous rappeler les différents rendez-vous du week-end. Alors ce soir, vous pouvez voir les documentaires de Gwenaëlle Bresse et Paul Erika à 21h à l'Embobineuse. Demain à 13h10, les 3-8 diffusent un reportage sur le quartier bruxellois des Marolles. Et le cinéma radioguidé d'ici même, c'est demain à 14h sur les ondes de la Grenouille. Et si vous voulez participer, rendez-vous à 13h45, place du Bois, à deux pas des escaliers de la gare Saint-Charles. On termine en musique avec « Ma ville est malade » de Massilia Sound System, un titre sorti en 97, titre qui date un peu donc, mais qui fait encore tout à fait sens aujourd'hui. Salut.
Ah, tu le sais, cousin, à Marseille comme partout en France, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il est urgent de reprendre la parole et de cesser d'avoir peur. Bout les gars! La grande ville où je suis né, appelée Marseille par les Français, porte de l'Afrique dès l'Antiquité, elle fut construite par des immigrés. Depuis bien longtemps, elle vit en paix, dans le respect de toutes les communautés. Mais depuis 10 ans, dans la tête des gens, de drôles d'idées commencent à germer. Mais ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux escalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux escalades. Il y a des Arméniens, il y a des Algériens, il y a des Tunisiens, il y a des Italiens, il y a des Marocains, il y a des Comoriens. Ici se trouve rassemblé presque tout le genre humain. La cité a été bâtie grâce à ses millions de mains. Tout le monde vit sa vie et beaucoup s'y trouvent bien. La culture de ce pays qu'on appelle Occitanie a toujours su intégrer les gens de tous les pays. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que je dis, mais je reprends mon argument, je développe, je poursuis. Car ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux escalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux escalades. Les gens venus de partout qu'on appelle l'immigrant, nous en avons pour voisins, certains sont nos grands-parents. Ils font leur bout de chemin et un jour ont des enfants, d'adorables chérubins avec de jolies mamans. Mais vous savez les enfants, ça va toujours grandissant. Et voilà qu'un bon matin, le bambin fête ses 3 ans. Il va nous parler enfin, toute la famille attend. Il ménage son effet, en fait il prend tout son temps. Il ouvre la bouche et dit maman j'ai faim avec l'accent. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux escalades. Ma ville tremble, ma ville est malade, de bonne veine jusqu'aux escalades. Tous les samedis, au stade Vélodrome, tous les supporters s'écrient comme un seul homme. Allez l'OM, on est tous avec toi, allez l'OM. Les Marseillais seront toujours là. Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'elle soit soudée. Et ça, je crois bien que personne ne peut le contester. Le jour vert, c'est bien mieux que de s'enfermer si c'est pas clair. Dès qu'on ne peut s'y retrouver, monsieur le maire, c'est à vous que je viens parler, c'est d'un repère dont ont besoin les Marseillais, respirer l'air. Je crois bien qu'il est pollué d'eau à la mer. Nous ne pouvons plus
plus reculer. Alors ouvrons un grand débat, parlons d'identité. Montrons à tous ces pépons que nous savons ce que c'est. La Provence a des valeurs, j'ai dit l'hospitalité. Oublions le doute et la peur, c'est de l'avant qu'il faut aller. Et pourtant, ma ville tremble, ma ville est malade. De bonne veine jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade. De bonne veine jusqu'aux égalades. Troisième, quatrième génération, nous avons tous grandi autour du même lacidon. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, nous allons tous au stade chanter les mêmes chansons. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, Marseille a des problèmes, ensemble on a les solutions. Première, deuxième, troisième, quatrième génération, si l'on aime notre ville, ensemble disons non au front. Si l'on aime notre ville, ensemble disons non au front. Si l'on aime notre ville, ensemble disons non au front. Si l'on aime notre ville, ensemble disons non. Ma ville tremble, ma ville est malade. De bonne veine jusqu'aux égalades. Ma ville tremble, ma ville est malade. Jusqu'aux égalades.